Cherchez dans votre Bible le livre des Actes des Apôtres. On parle déjà avec Samuel de qu'est-ce qu'on va faire après les Actes. Ce qui est sûr, c'est qu'on aimerait écrire la suite avec nos vies. On est rendu dans le chapitre 21. Et on va faire la lecture à partir du verset 17, où on s'est arrêté la semaine dernière, jusqu'au verset 40, c'est-à-dire la fin du chapitre. Je lis. « Lorsque nous arrivâmes à Jérusalem, les frères nous reçurent avec joie. Le lendemain, Paul se rendit avec nous chez Jacques, et tous les anciens s'y réunirent. Après les avoir salués, il raconta en détail ce que Dieu avait fait au milieu des païens par son ministère. » Quand ils l'eurent entendu, ils glorifièrent Dieu. Puis ils lui dirent, « Tu vois, frère, combien de milliers de Juifs ont cru et tous sont zélés pour la loi. Or, ils ont appris que tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les païens à renoncer à Moïse, leur disant de ne pas circoncire les enfants et de ne pas se conformer aux coutumes. Que faire donc ? Sans aucun doute, la multitude se rassemblera car on saura que tu es venu. » C'est pourquoi fais ce que nous allons te dire. Il y a parmi nous quatre hommes qui ont fait un vœu. Prends-les avec toi, purifie-toi avec eux et pourvois à leurs dépenses afin qu'ils se rasent la tête. Et ainsi, tous sauront que ce qu'ils ont entendu dire... Excusez-moi. Que ce qu'ils ont entendu dire... sur ton compte est faux, mais que toi aussi, tu te conduis en observateur de la loi. À l'égard des païens qui ont cru, nous avons décidé et nous leur avons écrit qu'ils doivent s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de la débauche. Alors Paul prit ses hommes, se purifia et entra le lendemain dans le temple avec eux pour annoncer à quel jour la purification serait accomplie et l'offrande présentée pour chacun d'eux. À la fin des sept jours, les Juifs d'Asie, ayant vu Paul dans le temple, soulevèrent toute la foule et mirent la main sur lui en criant « Homme israélite, au secours ! Voici l'homme qui prêche partout et à tout le monde, contre le peuple, contre la loi et contre ce lieu. Il a même introduit des Grecs dans le temple et il a profané ce saint lieu. Car ils avaient vu auparavant Trophime d'Éphèse avec lui dans la ville, et ils croyaient que Paul l'avait fait entrer dans le temple. Toute la ville fut en émoi, et le peuple accourut de toutes parts. Ils se saisirent de Paul et le traînèrent hors du temple, dont les portes furent aussitôt fermées. Comme ils cherchaient à le tuer, le bruit vint au tribun de la cohorte que tout Jérusalem était dans la confusion. À l'instant, il prit des soldats et des centeniers et courut à eux. Voyant le tribun et les soldats, ils cessèrent de frapper Paul. Alors le tribun s'approcha, se saisit de lui et le fit lier de deux chaînes. Puis il demanda qui il était et ce qu'il avait fait. Mais dans la foule, les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre, ne pouvant donc rien apprendre de certains à cause de ce tumulte, il ordonna de le mener dans la forteresse. Lorsque Paul fut sur les degrés, les marches, il dut être porté par les soldats à cause de la violence de la foule. Car la multitude du peuple suivait en criant « Fais-le mourir !» Au moment d'être introduit dans la forteresse, Paul dit au tribun « M'est-il permis de dire quelque chose ?» Le tribun répondit « Tu sais le grec ? Et tu n'es donc pas cet Égyptien qui s'est révolté dernièrement et qui a emmené dans le désert 4000 brigands ?»« Je suis juif, reprit Paul, de Tarse, en Cilicie, citoyen d'une ville qui n'est pas sans importance. Permets-moi, je te prie, de parler au peuple. » Le tribun, le lui ayant permis, Paul, debout sur les degrés, fit signe de la main au peuple. Un profond silence s'établit et Paul, parlant en langue hébraïque, dit. Et nous verrons la suite la semaine prochaine. Ou dans 15 jours. C'est ici la fin du troisième voyage missionnaire de l'apôtre. Paul revient à Jérusalem après 4 ans de voyage. C'est la fin de son ministère aussi en tant qu'homme libre. Il va être arrêté à Jérusalem et dès ce jour, il ne va connaître que des emprisonnements. Samuel a déjà évoqué dimanche dernier le parallèle entre cette montée de Paul à Jérusalem et celle de Jésus. L'un et l'autre savent que c'est pour y être arrêtés et condamnés qu'ils montent à Jérusalem. Ils sont l'un et l'autre victimes de fausses accusations. Ils sont l'un et l'autre victimes du soulèvement de la foule. Et les uns crient « Crucifie-le !» Les autres crient « Fais-le mourir !» On voit d'une manière très frappante, non seulement dans les faits, qu'il y a une ressemblance entre ces deux venus à Jérusalem, mais aussi dans le caractère, c'est-à-dire dans l'attitude du cœur de l'apôtre Paul et de celui de Jésus. Il y a dans ce passage une qualité spirituelle qui suinte, et cette qualité, c'est l'humilité. L'amour ne se vante point, ne s'enfle pas d'orgueil. L'amour est humble. On a déjà parlé de la grande puissance de l'apôtre Paul dans la prédication. On a parlé de la qualité de son enseignement. On a parlé de sa persévérance, de sa discipline. Nous avons parlé de son courage. Nous avons parlé de son engagement. Nous avons parlé aussi de ses convictions spirituelles. Nous avons parlé de tant de qualités qui ont fait de cet homme, cet apôtre et serviteur de Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, j'aimerais au travers de ce passage relever cette qualité de l'humilité du serviteur de Dieu. Et cela au travers des trois aspects que l'on trouve dans ce récit. Tout d'abord, dans son rapport missionnaire. On verra ensuite dans son obéissance aux autorités de l'Église. Et puis enfin, son humilité dans le chemin difficile qui le conduit en prison. Dans son rapport missionnaire, ça ce sont les versets 17 à 20 qui vont nous occuper premièrement. Son arrivée à Jérusalem se fait dans la joie. Verset 17, « Lorsque nous arrivâmes à Jérusalem, les frères nous reçurent avec joie. » Il faut dire qu'il arrivait avec une bourse pleine d'argent, récolté dans son troisième voyage parmi les églises de Macédoine, et c'était en pensant aux frères et sœurs de l'église de Jérusalem qu'il avait collecté tout cet argent à cause de la famine dont ils étaient victimes. C'était un don d'amour en faveur des chrétiens les plus nécessiteux de l'église, une manifestation aussi de l'unité du corps de Christ. Mais il rapporte aussi avec lui un groupe de chrétiens d'origine païenne, des gentils, gagnés à Christ. Ils sont les représentants de ces églises qui viennent également manifester leur amour fraternel eh bien, aux chrétiens de Jérusalem. C'est probablement avant tout pour la présence de ces convertis non-juifs que les chrétiens de Jérusalem se réjouissent. Au fond, ces chrétiens, ces jeunes convertis issus du paganisme, ils étaient la preuve tangible de l'œuvre de salut accomplie par Dieu dans le monde romain. Il y a une première rencontre, tout d'abord, tout à fait informelle. On ne sait pas trop où elle a lieu. Et puis le lendemain, une autre rencontre plus officielle, devant Jacques, le frère du Seigneur, responsable aussi de l'église de Jérusalem. Et puis, nous est-il dit, et devant tous les anciens de l'église réunis. Tous les anciens de l'église. Difficile à savoir combien ils pouvaient être. Mais on pense que l'église comptait probablement 20 000 personnes déjà en Actes chapitre 6. D'où la nécessité de choisir des hommes pour le service et organiser l'Église. En Actes chapitre 4 et verset 4, on comptait 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants dans l'Église. Mais maintenant, nous sommes 20 ans plus tard, et dans notre texte, au chapitre 21, verset 20, il est dit « Tu vois, frère, combien de milliers de Juifs ont cru ?» Et tous sont zélés pour la loi. Donc ce sont encore des milliers qui se sont ajoutés. Et donc, il a fallu organiser l'Église, il a fallu qu'elle se développe, et notamment au travers d'autorités des anciens. Quelqu'un m'a dit qu'il ne pensait pas que ce soit biblique d'avoir une grande Église, que lorsqu'on a à peu près 70 ou 80 personnes, on devrait couper en deux pour faire deux Églises, parce qu'on ne peut plus se connaître et s'aimer quand on est trop nombreux. Mais en Actes chapitre 4, au verset 32, il est dit que la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Et donc, on peut être des milliers et être qu'une seule âme. Et je crois aussi qu'on peut être deux et ne pas s'entendre. C'est le Saint-Esprit qui nous unit lorsque la personne et la croix de Christ sont présentées, prêchées. Et un des caractères de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ, c'est son humilité. Et l'unité de l'Église se fait aussi dans ce caractère humble, prenant soin les uns des autres, élevant Christ et non pas un homme. C'est donc devant tout ce monde que l'apôtre Paul raconte en détail, verset 19, tout ce que Dieu avait fait au milieu des païens par son ministère. Et c'est là que l'on voit l'humilité de l'apôtre. Il est dit ici, tout ce que Dieu avait fait au milieu des païens par son ministère. Il n'a pas dit, écoutez, quand je suis arrivé à Éphèse, dans le dernier voyage, là, je suis arrivé à Éphèse, là j'ai rassemblé tout le monde là, dans l'école de Tyrannus. Et puis alors là, pendant 2 ans, j'ai prêché, puis après on a été renvoyé, mais j'ai encore continué à enseigner et enseigner encore. Et puis, même toute l'Asie, par mon témoignage, a entendu parler de Jésus-Christ. Non, il n'a pas du tout parlé comme ça. Il a simplement dit tout ce que Dieu avait accompli par son ministère. Et en fait, c'est une caractéristique chez l'apôtre Paul. Il en parle toujours comme ça à la fin du premier voyage, au chapitre 14. Et au verset 27, il était dit, après leur arrivée, ils convoquèrent l'Église et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Et comment il, Dieu, avait ouvert aux nations la porte de la foi. Au chapitre 15, il se rend à Jérusalem pour le concile. Et au verset 4, il dit, arrivé à Jérusalem, il fut reçu par l'Église, les apôtres et les anciens. Et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Et puis au verset 12 encore, il dit « Toute l'assemblée garda le silence et l'on écouta Barnabas et Paul qui racontaient tous les miracles et les prodiges que Dieu avait fait par eux au milieu des païens. » Comment est-ce que je parle de l'œuvre que le Seigneur me permet d'accomplir? Paul en parlait de sorte que tous célèbrent la gloire de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé au verset 20. Il est dit, quand ils l'eurent entendu, qu'est-ce qu'ils dirent? Et Paul, c'est extraordinaire tout ce que tu as fait. On va faire un jour férié pour Paul. On va faire une collecte spéciale pour Paul. On va faire un banc pour Paul. Non. Quand il a raconté tout cela, ils glorifièrent Dieu. Ils glorifièrent Dieu. Il n'y a pas eu un mot. Waouh, Paul, quel apôtre tu fais! Non, ils ont dit waouh, quel Dieu nous avons! Et l'humilité, elle devrait se manifester de la sorte quand on parle, quand on raconte ce que Dieu fait, les gens devraient dire waouh, quel Dieu merveilleux on a! On a eu des témoignages ces derniers jours avec les baptêmes, il y en a encore un ce matin, en ce moment même. On dit aux baptisés, on témoigne de ce que Christ a fait. Il ne s'agit pas de raconter sa vie, juste sa vie, pour que tout le monde me connaisse. Non, on raconte, quand on parle de soi, c'est toujours pour que Christ soit vu, pour mettre en évidence l'œuvre de Jésus-Christ dans notre vie. Cette semaine, j'avais un collègue pasteur au téléphone. On a partagé sur la difficulté de Dieu à travailler avec des hommes. Il m'a dit, plus j'avance en âge, il a un peu plus de 60 ans maintenant, plus je me rends compte que le Seigneur, en travaillant avec des hommes tels que nous, a choisi le moyen le plus difficile pour accomplir son œuvre parfaite, afin que sa gloire en soit plus grande. C'est cela ce que Dieu fait. Quand il nous utilise, c'est juste pour que la gloire lui revienne, parce que, au fond, il n'y a aucune capacité en nous réelle pour accomplir son œuvre. Paul dira aux Corinthiens, « Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages, Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. » Afin que personne ne se glorifie devant Dieu, mais que toute gloire soit attribuée au Seigneur. Paul est tellement conscient que c'est Dieu qui fait l'œuvre par lui, qu'il n'y a pas de place pour se glorifier, mais simplement pour glorifier Christ. Voilà l'humilité dans son rapport missionnaire, et efforçons-nous, chaque fois que le Seigneur nous utilise, d'une manière ou d'une autre, dans son Église, pour accomplir son dessein, et bien de lui donner toute la gloire. Et puis, dans son obéissance aux autorités de l'Église, ça c'est les versets suivants qui nous occupent, après avoir glorifié Dieu, les anciens de Jérusalem soulèvent un point délicat. Ils rapportent à leur tour tout ce que Dieu a accompli parmi les Juifs de Jérusalem. Ce sont des milliers qui sont venus à la foi au Seigneur. Néanmoins, ils demeurent, ces Juifs, attachés aux cérémonies de la loi de Moïse. Et pour cause, elles avaient été ordonnées par Dieu lui-même. Ils lisaient la parole de Dieu, ils voyaient ces choses. Les leaders même de l'Église de Jérusalem ne les avaient pas mises de côté. Mais ces cérémonies étaient vécues comme des traditions culturelles. Ils ne considéraient pas la loi comme un moyen de salut, comme pouvaient le faire les judaïsants. Les judaïsants élevaient la loi comme un moyen de salut. Ils disaient, si vous n'êtes circoncis selon Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Et c'est pour ça qu'ils voulaient faire circoncire les païens, pour qu'ils puissent être sauvés. Ils voulaient en faire d'abord des juifs, avant de les amener à connaître Christ. Ils n'étaient pas, eux, en train de dire que la circoncision sauve, non. Ce n'est pas du tout cela à leur propos. Au verset 25, ils rappellent le concile, les conclusions du concile de Jérusalem, 21-25, ils disent « À l'égard des païens qui ont cru, nous avons décidé et nous leur avons écrit qu'ils doivent s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles et du sang et des animaux étouffés et de la débauche. Mais pas qu'ils doivent devenir juifs, ce n'est pas cela qu'on leur demande. » Mais ces croyants étaient troublés par les propos qui leur étaient parvenus, à savoir que Paul enseignait aux Juifs, dans tous ses voyages, à renoncer à Moïse, à renoncer à la circoncision et aux coutumes. Il dit, ils ont appris, et ce sont des judaïsants, pas des chrétiens, des judaïsants, des gens qui veulent amener des gens au judaïsme. Et ils font courir des bruits. Ils font courir ces mensonges à l'égard de l'apôtre Paul. Il est clair que Paul n'avait pas abandonné les coutumes juives, puisque après la décision même du concile de Jérusalem, il avait fait circoncire Timothée, qu'il a emmené dans son deuxième voyage. Il avait même prononcé un vœu de Naziréen. Il avait, rasé sa tête. Et puis là, il était venu spécialement à Jérusalem pour célébrer la fête de Jérusalem. Ça, c'était son intention. Au chapitre 20, verset 16, Paul avait résolu de passer devant Éphèse sans s'y arrêter afin de ne pas perdre de temps en Asie, car il se hâtait pour se trouver, si cela lui était possible, à Jérusalem le jour de la Pentecôte. Il voulait célébrer le jour de la Pentecôte à Jérusalem. Paul enseignait que les gentils n'avaient pas besoin d'être juifs pour être sauvés. Ils n'enseignaient pas que les juifs devaient abandonner Moïse et les cérémonies, mais qu'ils ne devaient pas chercher leur salut dans ces choses. Les anciens de Jérusalem, les anciens de l'Église, ils ne semblent pas être troublés par les propos des judaïsants. Ils connaissent l'enseignement de l'apôtre, ils lui font confiance, mais ils veulent simplement couper court à ses mensonges. Vous savez, ça, c'est quand même courant dans les églises. Le diable ne prend pas de vacances. Le diable, il est menteur dès le commencement. Et quand le diable dit une chose vraie, c'est toujours pour faire passer un mensonge. Il est menteur dès le commencement et il cherche toujours à semer le mensonge, la calomnie, pour détruire le témoignage de Jésus-Christ. Mais comme si ça n'était pas suffisant, il faut encore en faire la démonstration. Alors les anciens suggérèrent à l'apôtre, au verset 23, « C'est pourquoi, fais ce que nous allons te dire. » Et ils expliquent qu'il y a quatre frères qui ont fait un vœu de Naziréat, ce vœu dont on a déjà parlé lorsque l'apôtre Paul l'a fait. Les vœux de Naziréat, ça n'a rien à voir avec Nazareth, Naziréat, c'était simplement un vœu de consécration entier au Seigneur. Et généralement, quand on prenait ce vœu où on s'engageait vraiment à s'appliquer tout entier dans l'œuvre du Seigneur, on le prenait pour un mois, deux mois, voire trois mois, mais on ne le prenait pas trop longtemps parce qu'on savait que c'était tellement difficile de demeurer fermement et tenir ce vœu. Il n'y a que Samuel, Jean-Baptiste, Samson qui ont fait ce vœu de Naziréat pour la vie tout entière. Mais donc ces hommes avaient fait un vœu, peu importe le temps, mais ce vœu arrivait à son terme. Et à la fin du vœu, ils devaient se raser la tête, brûler leurs cheveux et offrir des sacrifices. Et donc Paul, et les anciens disent, « Paul, tout le monde est en train de s'inquiéter sur ce que tu enseignes parmi les païens. Oh, on croit bien que tu n'es pas en train de parler contre la loi ou contre Moïse ou contre la circoncision. Mais pour les rassurer, ce qu'on voudrait que tu fasses, c'est que tu ailles dans le temple. Mais pour cela, il faut d'abord que tu te purifies. » Parce que tu reviens d'un voyage missionnaire en terre païenne, tu ne peux pas revenir directement dans le temple. Il faut que tu prennes le temps pour te purifier. Et puis que tu rentres dans le temple, et puis que tu payes. Tu sais, si tu payes leur propre sacrifice, ils vont comprendre que non seulement tu continues à pratiquer ces choses, mais tu es attentif, c'est un acte de piété. Ils vont tous le reconnaître. Et puis ils vont accepter cela, que tu payes pour eux la cérémonie, et puis tous seront rassurés avec ça. C'est ce qu'il dit, hein, verset 24. « Et ainsi tous sauront que ce qu'ils ont entendu dire sur ton compte est faux, mais que toi aussi tu te conduis en observateur de la loi. » En fait, ça n'était pas vraiment nécessaire, on pourrait dire. Ça n'était pas nécessaire. Puisque eux-mêmes savaient, ils auraient pu dire, eux, écoutez, c'est un mensonge ces histoires, Paul il est revenu pour la fête de Pentecôte, il sort lui-même du temple là, il vient d'accomplir c'est pas sérieux. Mais Paul a quand même accepté ce compromis, dire ok, je vais quand même le faire. Et cela dans la perspective de ne pas faire obstacle à l'évangile. En 1 Corinthiens chapitre 9, verset 19, 1 Corinthiens 9, 19, il dit « Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. » Voyez-vous l'attitude de Paul ? C'est l'attitude d'un serviteur. C'est l'attitude humble du serviteur qui veut que tout le monde parvienne à la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Paul, c'était le champion de la rhétorique. Il était capable d'argumenter. Il était capable de convaincre par la parole de Dieu. Il a écrit, il avait déjà écrit à cette époque l'épître aux Galates pour expliquer ces choses. Mais il a quand même accepté d'accomplir cette cérémonie simplement pour gagner le plus grand nombre. Il n'a rien dit. Il n'a rien dit, il n'a pas essayé d'argumenter, même avec les anciens. Il a dit, ok, je vais le faire. Vous me demandez, je vais le faire. Et je trouve ça, c'est l'attitude humble. Quelqu'un qui est prêt à se soumettre au conseil des autorités de son Église. Il y avait peut-être, certains ont dit qu'il y avait 70 anciens, peut-être qu'il y en avait une centaine. Ils lui ont fait le même conseil, il dit, ok. Je vais faire ce que vous m'avez demandé. Il ne discute pas, il fait ce qu'on lui demande. Mais notez bien qu'il ne va pas contre sa conscience. Hein? S'il y avait eu chez les anciens la moindre confusion entre l'objet de la loi, il n'aurait pas accepté ces choses-là. Mais tant que c'était l'observation de traditions juives, et non pas qu'on y cherche son salut, eh bien, Paul a accepté la chose. Et j'aime cette attitude-là, on voit dans cette attitude le caractère humble du serviteur. Et puis enfin, on voit le caractère de ce serviteur de Dieu dans cette situation où le chemin devient difficile, un chemin qui le conduit en prison. Ce sont les versets 27 à 40. Et ce qui est étonnant, c'est que même après avoir accompli ces choses, hein, il dit au verset 27, à la fin des 7 jours, les 7 jours où il a fait cette cérémonie pour ces Juifs, à la fin de ces 7 jours, qu'est-ce qui se passe? Les Juifs d'Asie, certainement les chrétiens d'origine juive, ont accepté le témoignage de Paul et ont compris, ok, ça c'est bon, il n'est pas en train de parler contre les cérémonies. Mais les Juifs qui étaient venus d'Asie, probablement d'Éphèse notamment, en raison de l'accusation portant sur Trophime qui était d'Éphèse, et qu'on l'accusait au fond d'avoir introduit Trophime, un païen, dans le temple, c'est-à-dire au-delà du parvis des gentils. Vous savez, dans le temple, il y avait ce parvis des gentils, cette grande cour qui était pour les gentils, pour le monde païen, ils pouvaient venir dans le temple. Mais ils n'avaient pas le droit de passer ce parvis, parce qu'après, il y avait le parvis des femmes. Ça, c'était les femmes juives qui pouvaient seules entrer là-dedans. Et puis ensuite, il y avait le parvis des hommes, avec l'office de sacrificateur. Et donc, il y avait quand même cette partie-là qui était réservée aux païens. Mais là, ils ont accusé Paul d'avoir introduit dans le temple, c'est-à-dire au-delà du parvis des gentils, Trophime. Il faut comprendre qu'à Pentecôte, c'est, on suppose qu'il est arrivé finalement pour le temps de Pentecôte, mais Pentecôte, ça signifie 50 jours. C'est la fête qui avait lieu 50 jours après Pâques, après la sortie d'Égypte. C'est la fête qu'on appelle également la fête des prémices ou la fête de la moisson, parce que c'est le temps des premières moissons des froments. Mais par la suite, les rabbins ont donné un autre caractère à cette fête. Dans cette fête, ils ont donné un autre caractère, c'est toujours avec cette idée de 50 jours. Ils ont dit, Pentecôte, c'est aussi la fête de la loi. Pourquoi? Mais parce que la loi aurait été donnée 50 jours après la sortie d'Égypte sur le mont Sinaï à Moïse. Et donc ils ont commencé à célébrer Pentecôte, mais avec cette idée de « on célèbre la loi qui nous a été donnée ». Alors vous imaginez un peu tous ces Juifs rassemblés dans cette ville de Jérusalem avec cette perspective, on est en train de célébrer la loi. Et la loi interdit l'entrée des païens dans le temple. Alors, ils sont tous désireux d'accomplir la loi. Et les accusations mensongères qu'ils disent, verset 28, « Voici l'homme », j'aime bien le verset 28 en criant, « Homme Israël, au secours !» À péril, on coule. Au secours, voici l'homme qui prêche partout et à tout le monde, hein. Contre, quand on dit toujours partout, tout le monde, c'est, généralement c'est pour dire un mensonge, hein. Contre le peuple, contre la loi et contre ce lieu, contre le temple. Vous connaissez l'attachement des Juifs au temple. Ils vont tout perdre dans quelques années, hein, parce que ça va être rasé. Mais ils sont tellement attachés au temple. Et alors, ils ont en tête de le faire mourir, juste de le faire mourir. Ces accusations mensongères, ce sont les mêmes qui ont provoqué la condamnation de Jésus. Hein, en Marc 14, je lis Marc 14, versets 57 et 58. Quelques-uns se levèrent et portèrent un faux témoignage contre lui, disant « Nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple fait de main d'homme, et en 3 jours, j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. » Ça, c'est terrible. Il veut toucher au temple, vous imaginez ce qu'il veut faire. Ils ont lapidé, Étienne, avec les mêmes chefs d'accusation, hein, au chapitre 6 des Actes. Je lis au verset 13, acte 6, verset 13. Il est dit, ils produisirent à nouveau, hein, de faux témoins et qui dirent, cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi. Car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes de Moïse que Moïse nous a données. Oh là là, c'est terrible. On va le faire mourir. Et c'est ce qu'il commence à entreprendre de faire. Et Paul, il sait bien de quel chef d'accusation on a accusé Étienne, parce qu'il était là et il était du côté des accusateurs. Et là, maintenant, c'est contre lui qu'on profère ces paroles. Il n'a pas introduit Trophime dans la cour qui était réservée aux Juifs. Vous savez, quand on devait passer d'un parvis à un autre, il y avait des écriteaux. Interdiction à un païen de pénétrer dans l'enceinte. C'était sous peine de mort. Ces choses-là étaient écrites en grec, ça c'était la langue qui était commune à tout le monde de l'époque, le monde commercial de l'époque, et puis c'était ici aussi écrit en latin, de sorte que tous les païens qui mettaient les pieds dans le temple savaient que si jamais ils passaient cet endroit, ils allaient être sortis du temple et mis à mort. Alors Paul ne l'a pas fait, parce qu'il aimait Trophime et il n'aurait pas voulu qu'on tue Trophime. Mais c'est ça qui était intéressant, c'est que si c'est Trophime qui était entré dans le temple, c'est Trophime qui aurait dû mourir, mais pas Paul. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cherché à le faire mourir, mais on ne doit pas le faire mourir dans le temple, parce que sinon le temple il serait souillé. Alors du coup, on a fait sortir tout le monde, et notamment Paul. Il s'apprête à le faire mourir. Le temple était l'endroit du pays où même les Romains, les envahisseurs, n'avaient pas accès. Alors ils avaient fait construire, juste à côté là, du temple, sur un petit peu sur les hauteurs, la forteresse Antonia, de sorte qu'ils puissent observer, depuis l'extérieur du temple, tout ce qui se passait dans le temple. Pas fou les Romains. Et ils observaient ça, il y avait une garde en permanence pour regarder qu'il n'y ait pas un complot qui se faisait là. Mais là, ils ont vu comment ils ont sorti Paul du temple et qu'ils étaient en train de le faire mourir. Oh là là, là, le tribun a été averti, le tribun est parti, il a emmené, il est dit, des soldats et 2 centeniers. Les centeniers, c'est les chefs de 100. Ça veut dire qu'il a emmené plusieurs centeniers, c'est-à-dire plusieurs centaines de soldats sont venus et ont déboulé là, à la sortie du temple pour savoir ce qui allait se passer. Ils ont tout de suite arrêté l'apôtre Paul, ils l'ont enchaîné, comme ça il était sauf, parce qu'ils ont arrêté de le battre à ce moment-là. Ça devait être limite, hein. Et puis, à ce moment-là, il a commencé à interroger et on ne comprenait rien, parce que tout le monde disait une chose et son contraire. Et donc il a pensé que c'était un Égyptien qui avait fomenté toute une révolte, et puis il l'a conduit donc dans la forteresse. Ce qui est frappant ici, c'est que Paul n'a rien dit. Il n'a rien dit. C'est-à-dire, on l'arrête. Il n'a même pas cherché à dire, mais non, mais j'ai jamais introduit Trophime dans le temple. Il a pas dit, mais allez demander à Trophime. Il n'a pas dit, mais pourquoi est-ce que vous cherchez à me tuer moi? Mais tuez Trophime plutôt. Il n'a pas cherché à se défendre, il n'a rien dit. Et je trouve ça... enfin, moi je dis c'était ma peau qu'on allait... transpercer. Eh bien, je crois que j'aurais cherché quelques arguments ou à temporiser la chose. Non, il n'a strictement rien dit. Son Seigneur, arrêté de la sorte, n'avait rien dit. Accusé de faux témoignages, par des faux témoignages, il n'avait rien dit. Il n'avait rien répondu à Pilate, qui avait le pouvoir de le faire mourir ou de le faire vivre. Non, il n'a rien dit. Il n'a pas cherché à expliquer à la foule qu'il n'avait rien dit de mal contre son peuple, ni contre la loi, ni contre le temple. Il aurait pu dire, mais c'est insensé ce que vous dites, je viens de faire une cérémonie, ça a duré 7 jours, j'étais dans le temple. Pourquoi vous voulez me faire mourir? Je respecte les cérémonies, j'ai payé même pour leur sacrifice. Il aurait pu dire tout ça. Il n'a rien dit. Et pourquoi est-ce qu'il n'a rien dit? Parce qu'il se sait dans la main de Dieu. Et humblement, il se soumet à la volonté de Dieu. Il n'intervient pas, pas plus que Jésus n'était intervenu. Il n'a rien dit parce qu'il savait que ces hommes n'avaient aucun pouvoir que celui que Dieu leur accordait. Comme Jésus a dit à Pilate, mais tu n'as aucun pouvoir. Tu crois avoir le pouvoir de me faire vivre ou de me faire mourir, mais tu n'as aucun pouvoir, seulement celui que mon Père te donne. Il n'a rien dit. Il sait par le Saint-Esprit qui le lui a révélé qu'il connaîtra des tribulations à Jérusalem. Ça, c'était au chapitre 20. Verset 24, il est 22, il dit « Maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Voilà ce qui plaît à Paul. Voilà ce qui est sur son cœur, voilà sa préoccupation. Chapitre 21, verset 10, il fait mention d'un prophète nommé Agabus qui descendit de Judée et qui vint retrouver toute cette équipe qui partait pour Jérusalem. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et il dit « Voici ce que déclare le Saint-Esprit, l'homme à qui appartient cette ceinture, Paul, les Juifs le lieront et de la même manière à Jérusalem, ils le livreront entre les mains des païens. » Et tous, quand ils ont entendu cela, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors il répondit, « Mais que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem, pour le nom du Seigneur Jésus. » Dans le chapitre suivant, Paul va parler. Il va donner un témoignage. Mais il va parler non pas pour se défendre. Il va pas dire, écoutez, vous êtes en train de faire une erreur monumentale. Il dit pas cela, pas du tout. Il va donner son témoignage. Il va le faire pour annoncer une nouvelle fois le message de l'Évangile. Il va saisir une nouvelle opportunité de rendre témoignage à son Seigneur. Oui, il dit, oui, vous pouvez me lier. Mais l'Évangile n'est pas lié. Et il commence désormais un nouveau ministère en tant que prisonnier. Il va être prisonnier à Jérusalem, puis transféré à Césarée, puis transféré à Rome. Et là, il écrira dans l'épître aux Éphésiens et aux Philippiens, « Moi, Paul, le prisonnier des Romains, non, le prisonnier de Christ. » En Philippiens chapitre 1, verset 13, il dit « C'est pour Christ que je suis dans les liens. » Il dit comme son Seigneur avant lui, « Non pas ma volonté, Seigneur, mais la tienne. » Et c'est ce que j'observe dans tout le caractère de Paul ici, c'est son humilité, dans le rapport qu'il fait, dans les paroles qui sortent de sa bouche, dans ses actions, dans son obéissance aux autorités de l'Église. Et puis aussi dans son silence, lorsqu'il est conduit comme un agneau à la boucherie, comme son sauveur. Il dira aux Philippiens, « Pour moi, je sers déjà de libation. Je vais être versé, comme le vin était versé sur l'agneau. Je vais être versé là, simplement pour que le parfum monte jusqu'à Dieu. » Le sacrifice de Christ, je vais encore essayer l'offrande de ma vie, il va s'élever vers les narines de notre Créateur. Voilà quelle était la vie de Paul. Quel exemple, quel exemple il donne. Quand Paul parle du caractère de Christ en Philippiens 2, il présente son humilité, il dit... Ayez en vous le caractère qui était en Christ, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est humilié, il s'est abaissé, il s'est fait simple homme, serviteur de tous. Il est évident que la route de Paul vers Jérusalem ressemble étrangement à celle de Christ. Et il ne faut pas s'en étonner. Parce que Christ nous sert de modèle. Un serviteur glorifie son maître. Un serviteur, il cherche l'honneur de son maître. Il se soumet aux autorités. Il ne s'inquiète pas pour lui-même, mais pourvu qu'il accomplisse le service de son maître. Et si l'humilité était le caractère de Christ, si Paul, dans des circonstances semblable à manifester aussi le caractère de Christ. Nous aussi, mes frères bien-aimés, on a cette responsabilité, ce témoignage à avoir quand les choses vont sortir de notre bouche, dans la manière dont on sert dans l'Église, et puis dans le silence et la soumission que l'on manifeste à l'égard du plan de Dieu pour notre vie. Alors que Dieu vous bénisse, qu'il façonne nos cœurs, à chacun, à l'image de celui de Christ, ou bien soyons imitateurs de l'apôtre Paul, qui est lui-même imitateur de Christ. Prions.